Jean-Jacques Gourdin, il est 15h20, vous êtes sur RMC. On est ensemble de 14h à 17h pour l'émission Partageons nos avis, la première émission de débat en France. Vous pouvez donner vos avis sur la page Facebook et Twitter de l'émission ou encore par message au 08 90 03 79 78. Aujourd'hui, on va parler de technologie et intelligence artificielle. Depuis ces dernières années, on entend beaucoup parler d'amélioration dans ces domaines. Ça inquiète certains, d'autres en sont ravis. C'est certes un sujet très intéressant, mais qui suscite énormément d'avis différents. J'accueille aujourd'hui autour de cette table 5 personnes qui viennent de milieux différents. Donc bonjour à vous.
Bonjour.
À ma droite, premièrement, j'ai Loïc Kerangeven. Vous êtes cadre chez Wiko. Vous travaillez dans le développement de smartphones, donc Wiko qui est la filiale de l'entreprise chinoise Tino. Ensuite, j'ai Claude Tapier, employé chez un grand céréalier. Vous fournissez plusieurs grands distributeurs dans la région de Bordeaux.
Oui, c'est ça.
Très bien. Ensuite, j'ai Jean de Montpenage. Vous êtes enseignant-chercheur à Paris-Sorbonne dans le domaine de mathématiques appliquées et informatique. Vous êtes aussi passionné par la philosophie ainsi que la psychologie. J'ai ensuite Bernard Noël. Vous êtes ouvrier à l'entreprise PSA de Charleville, mais je vous accueille aussi ici aujourd'hui, surtout pour votre place en tant que militant syndicaliste à la CFDT, la Confédération Française Démocratique du Travail. Dernièrement, j'ai ici Sylvain Cotentin. Vous êtes ouvrier à l'entreprise Tracé, une entreprise basée dans le domaine de la chaudronnerie dans la région nantaise. Donc Jean de Montpenache, donc vous êtes ici notamment parce que vous avez écrit un livre appelé Éthique et technologie que j'ai ici, d'une centaine de pages, que vous avez écrit en 2009, nommé, donc comme j'ai dit, Éthique et technologie. Au début de ce livre, vous expliquez clairement un point de vue défavorable sur le sujet. Je cite, le modèle américain accepte le libre-échange d'informations sur les utilisateurs de nouvelles technologies. En Europe, la façon de penser semble différente, mais malheureusement, le procédé reste le même. Finalement, on s'aperçoit que tout au long du livre, vous guidez notre point de vue dans le sens inverse de vos idées de base, puisque vous venez à conclure qu'éthique et informatique sont clairement dissociables et peuvent cohabiter.
Bien sûr.
Clairement, depuis 2009, le monde a bien changé. Il y a eu l'apparition de Watson, qui excelle en finance et médecine, Sophia, qui imite le comportement humain, qui a maintenant la citoyenneté en Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, pardon. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression qu'on va vers un monde qu'on voyait avant comme une dystopie, c'est-à-dire un monde où la machine excelle sur l'homme, et donc excelle, domine l'homme?
Ben, écoutez, c'est vrai que dès 1997, on a le premier ordinateur Deep Blue, développé par IBM, qui a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Donc déjà, on voit dès 1997 la machine qui non seulement égale l'homme, mais commence à le devancer. Vous avez parlé aussi de Watson, le système d'IBM dont j'ai parlé dans mon livre, qui bat en 2011 des humains au jeu télévisé américain Jeopardy, dont on pourra parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, l'enjeu du 21e siècle, disons-le, c'est bien de faire cohabiter l'homme et ces nouvelles technologies qui nous entourent de plus en plus.
Et j'aimerais rebondir sur votre question et sur ce qui a été dit précédemment. C'est que la robotisation de masse dans nos usines, en tout cas, a eu lieu il y a déjà quelques années avec le système automobile, avec l'industrie automobile. Et aujourd'hui, les patrons et les chefs d'entreprise ne rêvent plus d'une usine toute blanche, toute propre, entièrement avec des robots. Ils veulent et on souhaite, notamment chez Wiko, remettre l'homme au centre de sa valeur ajoutée en le valorisant à l'aide des machines, en mettant en avant ses savoirs. Et je trouve ça important de le préciser.
Je me permets d'appuyer les propos de M. Kerangeven. Il faut savoir que d'ici 2025, on a une prévision de 3 millions de pertes d'emplois si la robotisation continue de prendre le pas sur les emplois, comme le disait M. Kerangeven, qui ont une vraie valeur ajoutée de par le savoir-faire et la qualité qu'ils apportent au travail et à la matière comme dans les usines automobiles.
Mais savez-vous combien d'emplois sont créés grâce aux robots? Parce qu'actuellement, pour 1 million de robots industriels, ils sont donc responsables de la création de 3 millions d'emplois. Et 2 millions d'emplois de plus d'ici 2020. C'est une prévision qui est réelle.
Ouais, mais alors, du coup, cette transition, elle va apporter quoi aux pertes d'emplois qui vont être générées par ça? Est-ce qu'on va avoir un programme qui va permettre de revaloriser les employés qui vont perdre leur statut de par leur manque de qualification? Ou est-ce qu'on va aller chercher des jeunes, ce qui est totalement justifié, à la suite de leurs études pour prendre ces postes-là? Parce que du coup, on aura quand même des personnes qui vont se retrouver au chômage suite à cette évolution.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Noël, parce que étant ouvrier dans une entreprise de chaudronnerie, j'ai déjà plusieurs collègues qui ont été licenciés à cause de l'arrivée de la robotisation dans notre entreprise. Et j'ai moi-même maintenant j'ai la pression parce que j'ai peur de perdre mon travail à mon tour. Et je vois déjà que mon salaire commence à baisser parce que les robots effectuent les tâches qui étaient les nôtres auparavant, donc on a maintenant moins de temps de travail, donc moins de salaire.
Alors je suis d'accord avec vous, je trouve ça dommage qu'il y ait des entreprises qui en arrivent à licencier des employés sur le compte de l'argent et de la productivité, et je trouve ça dommage que des savoir-faire se perdent, et nous on travaille à ce qu'ils ne se perdent pas justement.
Et vous avez des chiffres à apporter par rapport à vos 3 millions d'emplois qui pourraient être créés suite à la robotique? Parce qu'il faut savoir que le journal des entreprises, en juillet de 2017, cette année, a annoncé 500 000 emplois créés, mais ce serait dans des filières des relations humaines, donc l'environnement, le service client, ou la justice par exemple, et je vois pas du tout le rapport avec les usines automobiles.
Et ce journal a aussi dit que ça ne serait pas 3 millions, mais 1 089
000. Alors ça, c'est 1 089 000 d'emplois et de salariés, mais ce qui est de salariés concernés actuellement? Quand on parle des 3 millions, c'est les 3 millions à venir, parce que le journal se projetait jusqu'en 2025.
Mais aujourd'hui, la France est une société de services qui se base essentiellement là-dessus. Et donc, il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être liés à la robotisation, à la robotique de services, notamment dans les maisons de retraite, etc., pour assister les personnes.
Excusez-moi de vous couper, mais d'un point de vue études scientifiques, c'est vrai que les études sont très diverses et se controversent. En effet, une étude notamment du cabinet de conseil Berger, dont vous avez cité, qui reprend ces 3 millions d'emplois détruits prochainement. Cette estimation était faite en 2014. Et il est vrai qu'une autre étude menée par un autre bureau, Metramartec, affirme qu'entre 2017 et 2020, 450 000 à 800 000 emplois seraient créés directement, plus 2 millions indirectement. C'est pour ça qu'on revenait aux 3 millions. Aujourd'hui, il est difficile de statuer, en effet, quant à l'emploi et la robotisation. Beaucoup d'emplois vont être détruits, surtout modifiés, mais de nouveaux emplois devraient se profiler à l'avenir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le travail de demain ne sera plus le même que celui d'aujourd'hui.
Alors, je vous interromps, on vient d'avoir un message d'une auditrice. Elle nous dit « Bonjour, Monsieur Gourdin. J'habite dans la région lilloise, j'ai 48 ans, j'ai été licencié de mon poste il y a maintenant 2 ans. Pour raison économique, j'ai fait mes recherches et je viens de comprendre pourquoi. Je me suis aperçu que mon poste a été remplacé par une machine. Je suis maintenant sans emploi et sans qualification. Les seuls métiers que je peux donc exercer sont ceux qui sont en voie de disparition à cause des machines. Est-ce que je dois en conclure que les chances de retrouver un emploi sont nulles ? J'aimerais connaître votre avis, monsieur Tapier, sur le sujet.
Enfin, eh bien, je peux déjà vous dire que cette dame, elle peut déjà venir travailler dans le même entreprise que moi, parce que on a des robots, certes. Je travaille chez un céréalier. Je suis en logistique. Donc du coup, en fait, je distribue, comme vous l'avez dit, dans une petite entreprise dans la région de Bordeaux. Et on recherche, nous, des emplois, parce que l'homme, aujourd'hui, on a besoin de l'homme pour accompagner les robots, parce que en logistique par exemple, comment dire, bien, je sais pas trop comment me prononcer.
Si vous voulez, pour répondre à cette auditrice qui nous écoute, les emplois, beaucoup d'emplois seront touchés et d'autres emplois seront à l'avenir valorisés. On va parler des emplois créateurs dont la créativité humaine sera à l'image de la tâche. On parle de conception, mais notamment on aura besoin d'énormément de professeurs et de personnel dans l'éducation. Ces robots ne pourront pas faire l'éducation de nos enfants et cette éducation sera primordiale dans les années à venir.
Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui tout le monde peut se permettre de se payer une éducation pour pouvoir travailler ensuite plus tard dans l'ingénierie, dans la robotique? Est-ce que tout le monde peut aujourd'hui se le permettre? Parce que finalement, on voit très bien, par exemple, dans des régions comme, par exemple, le sud de la région parisienne, où on voit très bien des gens qui vivent dans... qui n'ont presque rien, qui n'ont pas d'argent. Est-ce que vous pensez que ces gens-là peuvent se permettre aujourd'hui de travailler dans l'ingénierie?
Écoutez, je pense qu'il n'est pas nécessaire de travailler absolument dans l'ingénierie ou dans des métiers de pointe. Je pense que quand je parle de l'éducation, on parle déjà de nos enfants dès l'âge de 3 ans, quand ils rentrent à l'école maternelle, à l'école primaire ensuite. Je pense qu'on doit mieux former et mieux accompagner nos futurs professeurs.
D'accord. Alors j'ai une question à vous poser, Monsieur Karangeven. Donc vous êtes cadre. Vous travaillez donc dans les smartphones et sur des téléphones qui marchent sous Android. Donc c'est-à-dire une compagnie qui marche en partenariat avec Google. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez du tracking d'informations? Qu'est-ce que vous pensez finalement des applications comme Snapchat qui permet de vous localiser? Vous êtes utilisateur de Snapchat. Grâce à cette application, vous pouvez savoir où se situent les autres utilisateurs de Snapchat. Qu'est-ce que vous pensez des systèmes GPS, récupérer les informations des gens, les revendre, ou même Facebook qui demande même à ses utilisateurs parfois de leur envoyer leur carte d'identité?
Alors pour le coup de la carte d'identité, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet une plus grande clarté à travers ces plateformes. Je sais que Facebook n'autorise pas les nouveaux membres en dessous de 13 ans et malheureusement il y a beaucoup d'usurpation d'identité pour accéder à ces sites où il y a même des personnes âgées qui se font passer pour des jeunes hommes et donc ça pourrait assurer une plus grande clarté sur ces plateformes. Mais par rapport à ce que vous me demandiez initialement sur la revente d'informations, etc., c'est malheureusement plus un problème d'éthique que d'industrialisation, parce que c'est ce vers quoi tend notre société, le profit à tout prix, entre guillemets. Et aujourd'hui, ces informations valent de l'or. Nous, chez Wiko, nous ne développons pas d'applications. Nous sommes juste fabricants, donc, entre guillemets, relais entre les sociétés productrices d'applications et les utilisateurs. Nous ne sommes qu'un écran. Et je trouve ça presque inquiétant qu'on arrive à vendre nos propres informations, notre emplacement, etc., à des grands groupes qui vont nous cibler pour nos achats. Je trouve que c'est une société de consommation qui est poussée à l'extrême et dans notre compagnie, on est plutôt contre ceci.
D'accord. Mais alors, du coup, par exemple, je suis utilisateur de vos smartphones. Si je veux utiliser toutes les fonctionnalités de ce smartphone, le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que pour utiliser toutes les fonctionnalités de ce smartphone, je suis obligé de donner mes informations. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un moyen qui nous permettrait d'utiliser les nouvelles technologies tout en gardant une confidentialité sur notre personnalité, sur notre personne en général?
Et bah pour cela, il faut malheureusement pas utiliser toutes les fonctionnalités. Si vous voulez vous orienter sur une carte, vous êtes obligé de mettre vos GPS, sauf si vous avez un compas et une boussole. Mais aujourd'hui, l'utilisateur, lorsqu'il achète un de nos smartphones, il est en pleine connaissance de ça. Il y a des notices d'utilisation. Même quand on télécharge une application, il y a une charte d'utilisation, etc., que l'utilisateur est prié de lire, même si c'est peu souvent le cas, on sait. C'est il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui pour ça.
D'accord. Et Monsieur Tapie, avez-vous quelque chose à rajouter sur ce sujet ?
Moi, j'ai envie de dire que Monsieur Kerangeven, lui, est contre tout ce qui est tracking d'informations. Pourtant, moi, j'ai lu dans la presse que Wiko prenait les informations des utilisateurs et les revendait. Donc, je sais pas si je dois vraiment.
Je ne suis pas porte-parole de l'entreprise. Je ne suis entre guillemets que cadre chez eux. Et je vous donne mon avis personnel. Après, je trouverais ça dommage du point de vue de l'entreprise de se faire de l'argent sur le dos du utilisateur contre leur gré.
Quoi qu'il arrive, on n'est pas là pour cibler quelconque entreprise. Mais c'est vrai qu'en Europe, nous sommes très frileux vis-à-vis de l'information privée. La vie privée européenne nous importe beaucoup. Quand on voit les GAFA qui sont Google, Amazon, Facebook notamment, il faut savoir qu'aux États-Unis, ces informations sont revendues à tour de bras. En France, au niveau des lois, il y a des lois qui existent. Ça m'étonnerait que Wiko fasse ce genre de choses. Mais dans un futur, ce côté éthique et réglementaire devra évoluer. Mais je pense que ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui.
Moi, j'appuierai ce que dit Monsieur Montpenache. Je pense qu'en France, et notamment en Europe, on ne maîtrise pas ce commerce d'informations. Et effectivement, je pense que les Européens sont frileux de leur vie privée parce qu'ils en ont peur. Comme on ne maîtrise pas le partage d'informations, on ne sait pas ce qui peut en découler. Et on en voit les résultats souvent chez les plus jeunes, comme vous disiez, les usurpations d'identité ou les faux profils. Je pense qu'il est important qu'on maîtrise ça, qu'on y mette des lois. Et c'est en ça que je vois néfaste la robotisation ou l'apparition des IA, même à un certain niveau, comme Google qui peut nous géolocaliser ou Snapchat, comme vous disiez. Et je pense que c'est vraiment important, il faut mettre le point dessus, c'est vraiment un problème d'éthique en France notamment, et c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, on n'a pas les compétences nécessaires pour aborder le sujet et développer ce domaine à fond. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encore un peu appréhender et il faut s'en méfier, on n'a pas les clés nécessaires et les lois notamment pour encadrer ça.
D'accord, mais le problème d'encadrer ce genre de choses, on voit aux États-Unis, dans leur société, ils sont très bien. Ils acceptent le libre échange d'informations, mais sans contredire quoi que ce soit. Alors qu'en France, donc comme vous le dites, il faudrait encadrer. Mais le problème d'encadrer, est-ce que finalement ça ne créerait pas un problème, justement, de créer du retard sur les Américains qui, eux. Qui eux sont en avance par rapport à nous. On a des géants de l'informatique comme Google, Apple. Aux États-Unis, on n'a pas ça en France. Est-ce que finalement, ce serait le fait de créer des lois qui encadreraient tout ça, ça empêcherait pas l'amélioration la création de grands géants européens ?
Alors déjà, moi, je suis militant CFDT, donc ce qui se passe aux États-Unis, ça me concerne pas trop. Mais je pense qu'avant d'être un problème de loi, c'est un problème d'éthique et d'éducation chez les Français et chez les personnes en Europe notamment, qu'on n'est pas capable, on n'a pas, comme l'éducation, vous le disiez au tout début, on nous apporte pas les éléments nécessaires pour nous, personnes lambda, Monsieur Tapie et Monsieur Contentin peut-être témoigneront. On n'a pas les éléments, on n'amène pas les éléments nécessaires afin d'avoir le contrôle là-dessus. Alors peut-être qu'aux États-Unis ils ont l'éducation pour, ils ont un système d'information, on prépare les gens à ça, mais en France je pense que c'est pas le cas. Et tant qu'on n'aura pas résolu le problème d'éducation et d'appréhension des smartphones, des informations, de la vie privée, de la vie publique, on n'est pas capable de répondre vraiment sur les questions.
Après il y a une base de données, je sais pas si les personnes lambda connaissent, qui s'appelle Google, sur laquelle on peut s'informer justement sur ces lois. C'est assez utilisé en général.
Moi je suis au courant, écoutez, il n'y a pas de souci. Moi je me pose pas de soucis avec ça, après je m'inquiète pour les enfants du futur. Et...
Ensuite, j'aimerais aborder plutôt maintenant un point de vue plutôt environnemental, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de technologie, on parle forcément du point de vue du côté environnemental. Est-ce que finalement. Le problème de l'évolution donc qui implique l'environnement, est-ce que vous pensez qu'on serait capable de se développer technologiquement mais tout en étant capable de préserver l'environnement. Est-ce que vous pensez que c'est possible de mêler technologie et environnement ?
Alors oui, totalement. Je vais prendre l'exemple de notre société, Wico, qui est une société française, donc qui est régie par des lois françaises. Nous essayons donc de rapatrier nos emplois en France, et je pense que ça fera plaisir à M. Tapie et M. Cosentin de le savoir.
Excusez-moi, mais je rappelle quand même que Wico est une filiale de l'entreprise chinoise Tino et les portables sont produits en Chine.
Oui, je sais bien, mais c'est une marque française à la base. Et donc nous essayons, ce que je dis, de rapatrier certains emplois en France parce que nous sommes régis par des lois françaises, notamment en matière d'environnement, et je pense que vous ne pourrez pas me contredire sur le fait que la Chine est actuellement un des plus gros pollueurs au monde et que ça ne ferait pas de mal d'alléger un petit peu de leurs emplois pour les ramener en France et pour le bien de la planète également.
D'accord. Monsieur Contin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet ?
Alors moi je suis pas du même avis que Monsieur Kéran-Guévet. Je pense que la robotisation est très néfaste pour l'environnement. Parce que j'ai pu remarquer dans mon entreprise que les robots consommaient énormément d'énergie. Et je pense que cela a aussi un impact sur la santé des ouvriers. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les ondes, les lumières bleues et tout ça, je pense que ça a un impact très mauvais sur la santé.
Vous êtes sûr pour ça ? Parce que, par exemple, les réductions des troubles musculo-squelettiques face aux robots qui soulèvent des charges. Je sais pas, vous n'en avez pas dans votre entreprise, sûrement, du coup, vous ne savez pas. Mais dans la mienne, on a des robots qui soulèvent des charges de plus de 50 kg. Mm-hmm. Donc ça réduit les problèmes au niveau du dos, par exemple. Donc, du coup, pour moi, c'est plus une bonne chose pour la santé, les robots.
Oui. Je sais pas, c'est... Personnellement, dans mon entreprise, il y a beaucoup d'objets connectés et tout ça. Et je me rends compte qu'après une journée dans ce milieu, j'ai quand même des troubles du sommeil, par exemple. J'ai du mal à m'endormir et tout ça. J'ai des problèmes de santé aussi liés à toutes ces nouvelles technologies.
Monsieur Cotentin, s'il me semble, vous travaillez dans la métallurgie, c'est ça ? Oui. Pouvez-vous nous dire, d'un point de vue environnemental, du gaspillage face aux robots ? Est-ce que les robots gaspillent moins de matière ? Quand ils produisent, que les ouvriers, y a-t-il un impact de ce côté-là ?
Alors, oui, ils gaspillent moins de matière, forcément, mais leur consommation d'énergie, comme l'électricité ou en électricité, est très très importante. Et si on pèse le pour et le contre, je pense... qu'il est plus
défavorable d'utiliser les robots dans l'industrie. Voilà.
Alors j'aimerais vous interroger sur un point, sur le point de la clean tech, donc clean technology. Je rappelle pour les auditeurs ce que c'est utiliser la technologie pour réduire les consommations. Donc c'est prendre un objet du quotidien, y ajouter l'électronique pour limiter sa consommation. Par exemple, on trouve ça très bien chez les agriculteurs qui l'utilisent pour, par exemple, pour les pesticides, doser la bonne quantité de pesticides. D'ailleurs, Monsieur Tapier, qu'est-ce que vous pensez cette technologie ?
C'est une très bonne idée. Ça a été développé depuis très peu. Et c'est vrai que, notamment avec les pesticides, c'est quelque chose que les écologistes détestent. Hein. Et la réduction des pesticides, c'est un enjeu majeur en ce moment. Et donc du coup, c'est vrai que grâce à Clean Tech Technologies, comme vous l'avez annoncé, on réduit les pesticides et on essaie d'améliorer aussi dans d'autres domaines, dans l'agriculture. Et pour l'instant, moi, en tant que... je suis en plus chez un céréalier, mais on travaille que là-dessus.
D'accord. Alors, je viens de recevoir un autre message d'un auditeur qui nous dit « Les IA sont capables de faire de la finance, de la médecine. Parfois, les résultats sont bien meilleurs que pour ceux réalisés chez les hommes. Est-ce que cela veut dire qu'à l'avenir, on peut se dire que les facultés de médecine, les écoles de commerce vont disparaître ? Est-ce que par conséquent, plus personne ne sera compétent en médecine et commerce ? Je parle de domaines en particulier, mais cela compte aussi pour bien d'autres. » Donc, des réactions à propos de ce sujet.
Oui, c'est vrai que dès 2015, l'intelligence artificielle réalise en quelques minutes des analyses cancérologiques, alors que un cancérologue en chair et en os mettrait plusieurs décennies. Toutefois, je pense qu'il est nécessaire de mettre au clair que l'intelligence artificielle et les robots seront plus performants à l'avenir que les humains dans des secteurs très pointus, très précis. Par contre, je ne pense pas qu'un généraliste puisse être remplacé par une intelligence artificielle ou un robot à l'avenir.
Je suis assez d'accord avec vous sur ce point. C'est-à-dire qu'un robot va faire des tâches très pointues, par exemple l'analyse cancérologique, vous l'avez dit, mais il ne pourra pas le traiter. Un robot n'est pas un chirurgien, il faut un doigté humain. Il y a certes des commandes haptiques qui permettent d'opérer à travers le monde, mais un robot n'est pas capable d'opérer une personne en chair en os.
Mais pourquoi à l'avenir il ne serait pas capable, puisqu'aujourd'hui on est capable de faire des progrès technologiques où on est capable d'analyser des données financières pour en déduire le meilleur côté. On est capable aussi de travailler aussi en médecine, on a les robots qui sont capables d'opérer. Est-ce qu'à l'avenir, elles ne sont pas capables d'opérer toutes seules ?
Les humains ne sont pas seulement des données. Vous parlez d'analyse de données, mais est-ce que M. Cotentin chez Tracé, vous pouvez le réduire à « il travaille chez Tracé, c'est tout ». Il a derrière une vie, il a derrière des troubles, etc. On ne peut pas juste le réduire à des données qu'on peut analyser. Et la vie n'est pas une simple analyse de données.
Bien sûr, vous parliez d'analyse. La machine, le robot analyse, certes pose le diagnostic, mais le médecin est tout de même nécessaire pour opérer, pour réaliser le soin auprès du patient.
Et pour appuyer ce que tu dis, il faut savoir qu'il y a un test qui a été réalisé dans le domaine de la justice, et on s'est rendu compte qu'un robot ne peut pas remplacer les humains dans certains domaines, et des domaines qui sont propres à l'homme, donc c'est la déontologie notamment et l'éthique. Parce qu'il faut savoir que ça a été lancé dans le domaine de la justice prédictive, ça permet de savoir. De prévoir à l'avance, avant même un procès, le montant des charges qui va gagner ou qui va perdre, et les indemnités, les risques juridiques qui peuvent en suivre. Il faut savoir qu'un robot échoue à chaque fois sur ce domaine-là, malgré qu'il ait une base de données plus importante qu'un homme, qui met moins de temps à rechercher des informations qu'un homme, mais il échoue à chaque fois parce qu'il ne va pas pouvoir prendre en compte le côté humain. Et ça, c'est un trait qui est propre aux avocats et aux magistrats. Et je pense que, comme les professions que vous avez citées juste avant, c'est quelque chose qu'il faut appuyer, les valeurs humaines. Et c'est là que je pense qu'il faut... Je suis contre la robotisation dans ces domaines-là, où ça cause un véritable problème. Et jusque-là, les tests ont montré que les robots échouaient à la place de l'homme.
Je vais continuer aussi.
Bien, je vous donne le mot de fin, justement. Allez-y, vous pouvez...
Je voulais rajouter que... j'espère aussi que la robotisation va pas trop... va pas trop s'imposer aujourd'hui, parce que faut savoir que aujourd'hui il y a quand même environ 200 suicides par an à cause du chômage, donc l'arrivée des robots provoque des maladies psychologiques chez les gens, et de la dépression, ça peut aller jusqu'au suicide, donc moi j'ai peur personnellement de perdre mon emploi, alors j'espère que la robotisation va pas trop imposé aujourd'hui.
D'accord. Donc au fil du débat, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de points de vue qui existent et qui sont très hétérogènes. Chacun doit faire sa propre conclusion de cette discussion qu'il vient d'y avoir. Dans mon cas, je dirais que les nouvelles technologies ne sont pas à prendre à la légère. Il faut apprendre aux jeunes comme aux adultes à se servir de cet outil correctement et modérément. La technologie engendre parfois l'amélioration de perfectionnement, mais encore une fois, il faut trouver un juste milieu entre progression et humanité. Je remercie chaque invité d'avoir été présent pour apporter son précieux avis.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Je remercie la production d'avoir diffusé notre émission. Partageons nos avis est produit tous les lundis après-midi de 14h à 17h. La semaine prochaine, nous aborderons les sujets de l'apprentissage. La problématique sera: le modèle éducatif français est-il encore adapté à notre société ? J'accueillerai plusieurs personnalités, comme le ministre de l'Éducation Joseph-François de Payen. Pour conclure, je finirai par cette citation de Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'art ». Merci à tous et à la semaine prochaine.
Merci.